Bonjour et merci d'être présent pour cette rencontre autour du livre organisée par la BULAC avec aujourd'hui l'association, l'ONG Bibliothèque sans frontières. Alors avant de passer la parole à Jérémy Lachal qui est directeur de Bibliothèque sans frontières et Anna Soravito, coordinatrice des projets, je vais introduire assez brièvement cette ONG qui a vu le jour en 2007 à l'initiative de Patrick Veil. C'est une très belle ONG engagée dans le développement culturel et social à travers le livre et la lecture dans le monde francophone, mais pas que francophone. Et donc elle a engagé un certain nombre d'initiatives liées à la fois à la création de bibliothèques, au fait de fournir un certain nombre d'établissements documentaires en livres. Et elle est aussi engagée dans la coopération avec des bibliothèques françaises pour promouvoir le livre et la lecture dans le monde. Et on va aujourd'hui avoir l'occasion de faire en quelque sorte le bilan de ces 5 années de fonctionnement qui ont vu BSF finalement débuter avec des moyens assez limités et devenir une association internationalement reconnue en matière de livres et de lecture. Alors je vais tout de suite passer la parole à Jérémy Lachal, qui est directeur de BSF, pour ce premier point de bilan.
Merci beaucoup Mélanie. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être ici et je crois que c'est un bonheur qui est partagé avec Anna. Moi, j'étais encore la semaine dernière à Haïti où j'ai pu participer à un congrès organisé par des bibliothécaires là-bas, en Haïti, et je trouvais que le symbole était assez beau de le faire justement dans un pays qui a été sinistré comme Haïti, dans une ville comme Port-au-Prince. Et effectivement, se retrouver ici aujourd'hui avec vous, c'est évidemment différent, mais je crois que c'est important aussi de pouvoir raconter, témoigner de ce qui se passe et ce qui peut se passer là-bas, de l'autre côté des océans ou des mers. Peut-être avant de commencer, j'aimerais vous raconter une histoire qui est un petit peu au fondement de Bibliothèques sans frontières. C'est une histoire que le président de Bibliothèques sans frontières, Patrick Veil, qui est directeur de recherche au CNRS et historien, m'avait racontée. Alors c'était en 2007 et il m'avait raconté cette histoire d'un ami à lui qui était professeur brésilien, grand professeur brésilien de sciences sociales, d'histoire, et qui, au moment de prendre sa retraite, a décidé d'aller se réinstaller dans son village, comme ça, perdu au fin fond de l'Amazonie. Alors c'était évidemment un village où le taux d'analphabétisme était fort élevé, mais il a dit tant pis, je vais monter une bibliothèque et je vais amener ma bibliothèque personnelle de chercheur que j'ai constituée tout au long de ma vie dans mon village natal. Et il a comme ça ouvert la première bibliothèque du village. Alors évidemment, les livres étaient un petit peu durs pour la population du village. Vous imaginez bien des livres de chercheurs internationaux comme ça, avec évidemment des livres en portugais, beaucoup de livres en langue étrangère. Et en fait, il a eu la bonne idée d'abonner sa bibliothèque à un certain nombre de revues, de magazines comme, on pourrait dire, Les Voici, Les Galas, les choses comme ça qu'on peut trouver en France. Ça a déclenché comme ça une sorte d'effervescence et de ferveur pour cette bibliothèque. Et bientôt, il y a eu des gens qui venaient, qui faisaient des kilomètres et des journées de marche entière pour venir fréquenter la bibliothèque. Alors la bibliothèque connaissant ce succès, évidemment, il y avait une file d'attente pour pouvoir consulter ces magazines qu'on pourrait dire magazines un peu poubelles en France, qu'on considère assez mal. Mais finalement, les gens, ils attendaient comme ça pour lire ces magazines. Et comme l'attente était un peu longue, ils ont commencé à s'intéresser aux livres. Et petit à petit, comme ça, la sauce, la mayonnaise a pris, comme on pourrait dire. En fait, la création d'une bibliothèque, c'est toujours une promesse sur l'avenir, sur ce qu'on va construire demain, co-construire, sur ces savoirs qui vont se faire et se recréer sur place à travers la bibliothèque, à travers ce lieu qui est d'abord un lieu d'échange de savoirs et de rencontres. C'est en tout cas la vision que nous défendons à BSF. Alors peut-être pour compléter cette histoire, je pourrais vous raconter l'histoire d'Amira. Amira qui est toujours une fillette de la vallée de l'Ourika au Maroc, donc à quelques kilomètres de Marrakech, dans le village de Tassaltent, où nous avons monté une bibliothèque. Et jusque-là, elle n'avait jamais tenu un livre dans ses mains. C'était une petite fille de de paysans qui allaient à l'école, mais l'école n'avait évidemment pas de livres. Alors, depuis qu'une bibliothèque a ouvert dans son village, elle s'y rend tous les jours. Et c'est peut-être l'une de nos lectrices les plus fidèles qui emprunte des livres pour toute sa famille. Je pourrais aussi vous parler de Xavier. Xavier, il est étudiant en Haïti. Il a vu évidemment la terre trembler il y a 2 ans. Il a vu 9 des 11 des bibliothèques de l'Université d'État d'Haïti, la plus grande université publique d'Haïti, qui se sont écroulées pendant le tremblement de terre. Xavier, il a pu reprendre ses études grâce à l'ouverture de la bibliothèque numérique universitaire que nous avons montée en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. C'est une bibliothèque qui offre l'accès à des millions de ressources électroniques, d'articles, de livres numériques en plein cœur de Port-au-Prince. Je pourrais aussi vous parler d'Alpha. Alpha, il était demandeur d'asile. Et lors de son séjour dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile en région parisienne, il a participé avec nous à la création d'une bibliothèque dans ce centre. Alors une bibliothèque un peu spéciale parce que c'est ce qu'on appelle une bibliothèque métissée, c'est-à-dire une bibliothèque avec des livres qui viennent de France, mais qui viennent aussi des pays d'origine des résidents du centre. Et les résidents ont co-construit comme ça, aux côtés d'Alpha, cette bibliothèque. On en a monté 3 de ce type-là. On continue aujourd'hui avec des centres d'accueil et d'hébergement et de stabilisation pour les sans-domicile fixe, les populations qui sont en situation de grande précarité. Alors la particularité d'Alpha, c'est qu'il a eu sa régularisation et il a pu valoriser cette expérience parce qu'il a aussi bénéficié d'une formation par la bibliothèque publique de sa ville et il a ainsi décroché un emploi de documentaliste aux Archives nationales. Donc si vous traînez aux Archives nationales, vous pourrez peut-être voir Alpha comme ça dans les rayons. Alors ces 3 histoires, ce ne sont que 3 histoires. En fait, on pourrait dire qu'on en a 500 000 aujourd'hui à raconter. 500 000, c'est le chiffre que l'on évalue de nouveaux lecteurs qui, grâce à l'action de BSF depuis 5 ans, ont pu accéder à des bibliothèques. 222 bibliothèques appuyées en 5 ans. Et évidemment, beaucoup de travail autour de ces structures. Je vais vous raconter un petit peu quels sont les axes d'intervention de BSF, mais évidemment, au-delà de l'intervention, de l'éducation, de l'accès à l'information, etc., c'est d'abord de personnes, d'êtres humains dont on parle. Et ces personnes, je dirais que la bibliothèque, elle apporte beaucoup plus simplement qu'un accès comme ça à de l'information, à de la culture, etc. Elle apporte des chemins de vie et elle ouvre justement des opportunités pour construire des chemins de vie. Alors, Bibliothèques sans frontières, c'est un système qui est à la fois simple et compliqué, je dirais, parce que, évidemment, une bibliothèque, c'est quelque chose de relativement complexe. C'est quelque chose qui intègre à la fois, je dirais, du passé, du patrimoine, donc cet héritage que la bibliothèque va conserver, qu'elle va valoriser. C'est également quelque chose qui est tout à fait présent. C'est-à-dire, on pourrait dire, l'accès à l'information, à l'actualité, au débat, à la construction de la démocratie. Mais c'est également quelque chose qui est de la projection vers le futur à travers l'éducation, à travers que ce soit l'éducation informelle, comme on peut retrouver dans beaucoup de pays par je dirais, cette éducation populaire que permet la bibliothèque, mais c'est également une éducation bien formelle par les bibliothèques scolaires, les bibliothèques universitaires, etc. Donc ces domaines d'action, je vais y revenir, vous les voyez. L'intervention de Bibliothèques sans frontières, concrètement, c'est de la formation, de l'animation, de l'équipement, du don et de l'achat de livres, et de la construction, de la rénovation de structures. C'est finalement ce qu'on pourrait appeler, dans le jargon que nous utilisons, de l'ingénierie culturelle, c'est-à-dire essayer de co-construire avec ces acteurs locaux des projets. En fait, on a créé Bibliothèques sans frontières il y a 5 ans sur une double démarche. D'abord, une certitude. La certitude, je dirais que les bibliothèques ont un rôle à jouer dans le développement durable. Vous le savez certainement, on compte aujourd'hui plus de 800 millions d'adultes analphabètes à travers le monde, plus de 700 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école, et les bibliothèques sont souvent absentes de pans entiers de territoires qui ne comportent pas justement d'accès à l'information, à la culture, etc. Alors évidemment, la bibliothèque, elle va accompagner la scolarité du primaire à l'universitaire, mais je dirais que le livre ne se contente pas de donner accès ou de transmettre un savoir, c'est aussi un instrument essentiel de la démocratie, de l'esprit critique, justement de la pensée en action qui va se confronter à des idées à travers un livre, à travers des idées qui sont transmises. Et finalement, on s'aperçoit que ce soit dans des contextes de crise humanitaire, comme en Haïti, ou dans des pays qui connaissent des bouleversements profonds, des bouleversements sociaux, culturels, politiques, en Tunisie, je pense aussi au Rwanda, où nous sommes intervenus, ben les bibliothèques sont des points de repère essentiels dans la société, des lieux pour la démocratie, où vont se croiser les générations, où on va pouvoir justement échanger. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, on pourra en discuter si vous le souhaitez. En Haïti, nous sommes intervenus sur différents axes, d'action, mais le premier de ces axes, c'était le montage de points d'accès à la culture, donc de petites bibliothèques sous tente dans les camps déplacés. Et on a monté comme ça des bibliothèques dans 9 camps déplacés dans la région de Port-au-Prince. Donc c'était des petites bibliothèques sous tente avec des animateurs qui étaient formés localement et qui étaient en fait des jeunes qui venaient des camps dans lesquels on installait la bibliothèque. Et alors c'est complètement étonnant, mais ces bibliothèques, elles sont devenues des points de repère, comme ça, au milieu des camps, où tout le monde venait se rencontrer, où on pouvait venir retrouver justement ce repère symbolique, géographique, qui manque tant quand tout s'est écroulé, quand on a perdu, qu'on soit un enfant ou un adulte hein, d'ailleurs, quand on a perdu son quartier qui s'est effondré, qu'on a perdu son école, qu'on a perdu de la famille, qu'on a perdu tous ces repères symboliques et géographiques, hein, parce que la ville est évidemment reformatée, qu'on se retrouve dans un endroit complètement neuf. Mais il faut pouvoir recréer comme ça des habitudes, des symboles, des étapes. Et les bibliothèques que nous avons constituées sont devenues ces points. Et c'est extrêmement important parce qu'on voit bien là le rôle social, je dirais, profond de la bibliothèque. Au-delà même justement de dire toujours la bibliothèque, c'est un endroit où il y a des livres. On entend souvent ça. Mais ce n'est pas que ça, une bibliothèque. Et justement, nous, on se bat beaucoup pour que ça ne soit pas que ça. Donc je vous ai dit une certitude pour la création de BSF, mais c'est aussi un combat. La création de BSF, c'est un combat contre le don de livres comme finalité de l'action culturelle, je dirais. Depuis une cinquantaine d'années, grosso modo, la coopération française, la coopération décentralisée, les principales associations qui œuvraient dans ce domaine de la coopération culturelle avait une logique d'action qui était de dire on va envoyer massivement des livres sur le continent africain et ça va régler le problème de l'accès à l'information et à la culture. Pourquoi pas ? En tout cas, l'histoire et l'expérience nous montrent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plein de raisons. D'abord parce que quand on envoie des livres, il faut qu'ils soient adaptés. Donc, après, évidemment, c'est une première chose à vérifier. Ensuite, le problème, c'est que quand on envoie des livres, on vient forcément se confronter et, je dirais, concurrencer les filières du livre local, les éditeurs locaux qui sont eux-mêmes... évidemment en train d'essayer de produire des bouquins et ben, vous arrivez avec d'autres livres qui eux sont gratuits et, évidemment on est dans des situations de concurrence déloyale mais ça crée encore pire je dirais ça crée une relation de dépendance vis-à-vis d'une manne comme ça de culture, d'information qui viendrait du Nord et ça c'est extrêmement grave parce que ça crée je dirais cette situation de dépendance au niveau des bibliothèques qui n'attendent qu'une chose c'est qu'on leur envoie des livres. Et ça crée quelque part aussi des formes de dépendance, j'allais dire psychologique, symbolique en tout cas, sur la question de savoir où le savoir est produit, dans quel endroit le savoir est produit. Et évidemment, ça pose de gros problèmes dans les milieux universitaires, mais au-delà même, je dirais, simplement un écrivain aujourd'hui, en Afrique, il se pose une question primordiale, c'est de savoir dans quelle langue j'écris. Est-ce que j'écris dans ma langue je dirais locale, natale, c'est-à-dire la langue de mon village, de mon groupe social. Est-ce que j'écris dans la langue de mon pays, qui va être une autre langue très, très souvent? Est-ce que j'écris en français? Alors ok, j'écris en français pour des écrivains d'Afrique francophone. Alors j'écris en français parce que le public va être plus large. Mais si j'écris en français, et si je suis bon, bah, je vais me faire éditer en France. Parce que évidemment, l'influence et l'impact sera d'autant plus grand. Alors, le problème, c'est qu'il y a de la production culturelle, il y a de la production intellectuelle en Afrique subsaharienne, et on le voit tous les jours, et dans une bibliothèque comme celle-ci, évidemment, on le voit d'autant plus. Cela étant, en fait, ces populations-là n'ont pas accès à ce qui est produit, finalement, par les intellectuels, par les artistes de leur propre région. C'est vraiment dans cette optique-là que nous avons créé Bibliothèques sans frontières. C'est pas simplement, je dirais, appuyer des bibliothèques, mais c'est vraiment avoir cette approche et cette démarche intégrée de la filière du livre et de dire, voilà, la bibliothèque est un maillon d'une filière du livre. Et ce n'est pas simplement un outil culturel, c'est aussi un maillon économique dans une filière économique qui existe. Et dans ce cadre, la bibliothèque, elle a aussi un rôle économique à jouer localement. Elle a un rôle économique sur, évidemment, la filière du livre, mais au-delà même, elle doit s'intégrer économiquement dans une société, dans un contexte local qui lui est propre. Et dans ce cadre-là, nous travaillons énormément sur les problématiques des activités génératrices de revenus dans ces structures bibliothèques. Il y a beaucoup de bibliothèques qui se créent et on trouve des investissements pour les bibliothèques, on arrive à lever des fonds, mais 2 ans, 3 ans après, les bibliothèques, elles meurent parce que finalement, une bibliothèque, ça ne génère pas de ressources à proprement parler. Et d'autant plus dans le modèle français de lecture publique, qui a été quand même fortement exporté en Afrique, en tout cas en Afrique francophone. Donc finalement, quand l'État n'est pas là pour subventionner la bibliothèque, eh bien, on se retrouve un petit peu dans des situations où il n'y a personne pour payer, quoi, grosso modo. Et finalement, ça rejoint complètement, c'est ce que je disais sur la question de la dépendance. Alors évidemment, une dépendance culturelle venant du Nord, mais aussi ces dépendances économiques, parce que finalement, on crée la bibliothèque un petit peu hors d'un champ culturel, social et économique local. Et au contraire, la bibliothèque, c'est un acteur culturel, c'est un acteur social et c'est aussi un acteur économique. Et c'est toute cette démarche-là que nous souhaitons intégrer. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez sur ce schéma vers le développement toute une communauté. Ce n'est pas simplement des mots, c'est vraiment l'idée que la bibliothèque, elle a cette démarche sociale, sociétale, je dirais, d'accompagnement de toute une communauté. Alors pour vous donner quelques chiffres, une petite idée, en 5 ans, 222 bibliothèques appuyées à travers le monde, 20 pays d'intervention, 450 bibliothécaires formés. Alors j'y reviendrai, c'est quelque chose d'extrêmement important, les bibliothécaires pour nous, c'est pas simplement... Il faut des médiateurs et des passeurs de savoir, c'est extrêmement important. Plus de 100 000 livres, il manque le mot livre, collectés et envoyés chaque année. Alors je vous ai dit qu'on était parti d'une critique du don de livres, mais cette critique, elle est également constructive et l'idée est bien qu'il peut y avoir des livres envoyés si ces livres sont demandés, et plus que demandés, je dirais sélectionnés par les bibliothèques sur des critères de politique d'acquisition. C'est-à-dire qu'une bibliothèque qui est là, qui est constituée, qu'elle soit en France, qu'elle soit au Maroc, en Centrafrique, aux États-Unis, elle va avoir une politique d'acquisition, et dans sa politique d'acquisition, elle va avoir évidemment des livres étrangers à faire venir. Et ces livres étrangers, ils peuvent être des livres français et effectivement, quand on n'a pas beaucoup de moyens, ces livres, ils peuvent être donnés. Donc là, ça a du sens, je dirais. Ça n'a pas de sens quand on dit on va construire une bibliothèque avec des bouquins qui viennent de l'extérieur. Par contre, si on dit, voilà, on a une politique d'acquisition avec des livres locaux, on va essayer d'acheter des livres localement, et ça, c'est extrêmement important, mais on va aussi en faire venir, et là, on a une co-construction, je dirais, avec du savoir qui vient d'un petit peu partout, c'est quelque chose d'important. 500 000 nouveaux lecteurs, je vous le disais tout à l'heure, bon, c'est évidemment une évaluation assez large de nos projets, mais 222 bibliothèques, ça vous donne déjà une idée de l'envergure et du nombre de lecteurs qu'il peut y avoir derrière. 500 bénévoles à travers le monde, alors 3 représentations internationales. Aujourd'hui, Bibliothèques sans frontières, historiquement, est créée en France, mais nous avons une antenne qui s'est constituée aux États-Unis, qui est encore naissante, je dirais, qui est gérée et coordonnée par des équipes bénévoles. Et également une représentation qui est née en Belgique l'année dernière, au sein d'une école de bibliothécaires. Et j'espère que tout ça, ça fera des petits, parce que, évidemment, l'idée de BSF, c'est... d'avoir cette ambition, je dirais, d'avoir une représentation à l'international pour aller chercher des compétences, de l'expérience, etc. Mais c'est aussi pour aller chercher, je dirais, des modèles de bibliothèques qui n'existent pas en France. La France a des modèles de bibliothèques extrêmement présents. Enfin, on a des bibliothèques partout sur le territoire, mais on a un modèle qui est, je prends le risque de le dire, un petit peu vieillissant. Et même s'il y a beaucoup de recherches intellectuelles sur la question, mais il y a des modèles qui sont extrêmement intéressants dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Asie, qui sont importants à aller chercher, à aller expérimenter pour évidemment essayer d'adapter et de toujours repenser notre action dans des pays en Afrique subsaharienne, en Haïti ou ailleurs. Vous voyez ici la carte d'implantation de BSF. Alors, c'est pas très très clair, mais grosso modo, vous voyez qu'il y a une forte présence en Afrique subsaharienne et notamment Afrique centrale. Même si le carré n'est pas très gros sur Haïti correspond maintenant depuis 2 ans à, je dirais, un tiers, grosso modo, du volume d'activité de Bibliothèques sans frontières. Donc c'est évidemment notre principal terrain d'action. Nous avons également des actions en développement. Alors nous avons fait des projets en Inde sur les dernières années. Nous avons des actions en développement sur le Cambodge. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, aller chercher aussi des modèles un petit peu dans d'autres pays.
Et juste, alors pour te poser une question et aussi pour vous dire que si vous voulez intervenir pendant l'intervention de Jérémy, vous pouvez tout à fait le faire. N'attendez pas qu'il ait fini son exposé. Enfin, je
coupez-moi. Me
permets de faire cette proposition. En fait, quand tu parles de modèles alternatifs, ou en tout cas de modèles différents, effectivement, à ce qu'on a pu exporter dans des zones francophones, est-ce que ça fait écho au modèle anglo-saxon, type de la public library, qui serait, où la bibliothèque est vue comme un espace de citoyenneté, un espace dont les lecteurs sont, enfin, les lecteurs sont très présents, notamment dans le soutien qu'ils peuvent apporter à leur bibliothèque en cas de risque de fermeture ou de difficultés économiques associées au fonctionnement d'une bibliothèque. Est-ce que c'est ça ou...
Oui, complètement. Alors, c'est évidemment un mélange de tout ça, parce que la réalité, c'est que, notamment en Afrique subsaharienne, mais on le retrouve en fait beaucoup dans les pays dans lesquels nous travaillons, c'est qu'il y a une tradition orale extrêmement forte. Et cette tradition orale fait que la bibliothèque, ce n'est pas simplement un endroit où on va lire. On a mené comme ça des petites études. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites sur le sujet, sur justement la question d'ouvrir un livre et s'enfermer dans un livre, finalement. On ouvre le livre et on s'enferme dedans. Et pour des enfants africains, c'est des choses qui posent des problèmes, évidemment, parce que on ne parle plus. Et en tout cas, on apprend sans la parole. Et vous allez me dire, dans les mégalopoles africaines, c'est peut-être plus la question. Mais quand on arrive dans des villages un petit peu reculés, ça pose plein de problèmes. D'ailleurs, d'abord parce que le bibliothécaire est quelqu'un qui va avoir le savoir et que ça ne va plus être le patriarche ou le chef de la tribu, qui est peut-être lui analphabète. Donc ça peut poser comme ça plein de problèmes, justement, de où est le pouvoir et justement ces équilibres. Mais au-delà de ça, c'est que la bibliothèque, c'est aussi un endroit où on va faire de la transmission à l'oral. Donc c'est un endroit où il va y avoir beaucoup d'échanges et de travail autour de ces débats d'idées, de ces échanges, etc. Dans ce cadre-là, en fait, on n'est plus du tout dans une logique où on est simplement à venir lire des livres, on est dans une logique où on est vraiment... On est complètement, je dirais, dans cette logique globale sociale et du rôle social de la bibliothèque où tous les usagers de la bibliothèque s'approprient le lieu et le font vivre à leur manière. Ensuite, sur la question de la défense de la bibliothèque, en fait, c'est, je dirais, le point d'entrée de BSF dans un projet, c'est toujours le partenariat local, c'est-à-dire avoir un partenaire local. Alors ça peut être un État, on travaille avec le gouvernement, mais ça peut aussi être une association ou un acteur de la société civile qui souhaite monter, a cette volonté de monter ce projet. BSF n'arrive pas dans un pays en disant « on arrive pour monter un projet bibliothèque ». Ça serait complètement contre-productif parce que justement l'appropriation est le fondement même de l'action culturelle. Si on monte une bibliothèque comme ça, ex nihilo, à côté d'une population, et que cette population ne s'approprie pas cette structure, on peut être sûr que déjà elle sera fragile, mais en plus de ça, elle n'aura aucun sens, je dirais, dans l'action culturelle et sociale qu'on développe. Donc évidemment que les populations sont amenées à prendre en charge eux-mêmes ces structures. Ça marche plus ou moins bien. Il y a des pays, en Haïti, je reviens encore sur Haïti, mais Haïti est très particulier parce qu'ils ont un attachement pour le livre et leurs écrivains qui est absolument impressionnant. Enfin, si vous voulez, vous faites une conférence autour d'un... vous faites venir un poète un peu pas très connu, je dirais, en Haïti, vous avez une salle qui est comble avec des gens, ça déborde sur la rue, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et des gens qui ne savent ni lire ni écrire connaissent le nom de leurs écrivains comme des joueurs de foot, quoi. Bon, c'est, donc, évidemment, quand il y a une bibliothèque qui ferme, vous pouvez être sûr qu'il y a une manifestation. C'est pas forcément le cas dans des pays, enfin, je sais pas, en Centrafrique ou des endroits où c'est quand même... La relation au livre est beaucoup moins implantée et la bibliothèque peut moins bien fonctionner, mais ça dépend encore une fois des humains qui la composent finalement et des bibliothécaires, comment ils ont mené leur projet pour faire en sorte que ça tienne et que ça intéresse les gens.
D'accord.
Peut-être du coup pour reprendre un petit peu ces axes d'intervention dont je vous parlais tout à l'heure, si je commence sur pour vous parler un petit peu de l'éducation. L'éducation, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important et en même temps très compliqué à traiter. Nous savons bien le traiter, je dirais, au niveau universitaire. Nous avons des projets universitaires assez importants. Alors en Haïti, évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure de la bibliothèque numérique de l'Université d'État d'Haïti. En fait, il faut voir que cette bibliothèque numérique, c'est une première étape vers l'établissement d'une bibliothèque universitaire centrale à Port-au-Prince. Donc vraiment vers la reconstruction d'une infrastructure documentaire pour donner l'envergure à l'Université d'État d'Haïti, d'avoir une envergure internationale en matière de ressources documentaires et d'avoir cette excellence universitaire qui leur manque tant. Parce que finalement, sans BU, aujourd'hui, on voit ces étudiants partir vers les États-Unis, etc. C'est sans BU, sans professeurs, évidemment, vous allez me dire. Mais les professeurs, ils sont aussi attirés par la recherche et par ce qu'ils vont pouvoir trouver comme ressources. Donc on travaille avec l'Université d'État et avec le gouvernement haïtien à la création d'une bibliothèque universitaire hors-site, donc le modèle de off-site library qui se retrouve beaucoup aux États-Unis, à Yale ou à Harvard. C'est-à-dire c'est des bibliothèques qui sont à distance. Donc là, c'est une sorte de... On l'appelle la ruche, donc la réserve universitaire centrale haïtienne. Donc c'est une réserve, si vous voulez, de documents et qui va desservir toutes les facultés et les universités de Port-au-Prince, donc grosso modo une vingtaine de sites, par un système de prêt à distance. Donc les étudiants...
Donc là, c'est une bibliothèque numérique ou c'est une bibliothèque...
Là, c'est une bibliothèque physique.
C'est une bibliothèque
physique. Les documents circuleront par des petites navettes comme ça et les étudiants pourront choisir leurs documents sur catalogue et il sera livré dans le... Et en fait, l'idée, c'est qu'évidemment, ça s'articule avec la bibliothèque numérique que nous avons créée parce que le catalogue permettra des recherches fédérées qui permettront à la fois d'aller récupérer des ouvrages papier et également d'avoir des ressources électroniques directement accessibles.
Et du coup, est-ce que tu peux revenir quand même sur le choix qui a été assez audacieux de mettre en place, de développer en tout cas une bibliothèque numérique à Haïti? Pourquoi choisir une bibliothèque numérique? Bon, la réponse, vous pouvez la deviner. Ouais. Et les appuis dont vous avez bénéficié de la part des éditeurs français, il me semble.
Oui, alors la bibliothèque numérique, c'est une grande aventure. Hein. Enfin, c'est vrai que moi, j'étais à Haïti 3 semaines après le séisme à la demande de la Bibliothèque nationale d'Haïti qui nous a demandé une mission d'intervention pour du matériel d'urgence, pour sauvegarder des archives et des fonds patrimoniaux qui remontaient au XVIe siècle, donc des choses qui sont extrêmement vulnérables, qui étaient dans des situations vraiment pas bonnes. Et j'en ai profité, notamment pour revoir un certain nombre de partenaires avec qui ont travaillé avant le séisme, puisqu'on était en Haïti depuis 2009, et notamment l'Université d'État d'Haïti, avec qui on a eu une grande réunion, et le recteur... On était parti sur justement le problème des bibliothèques, 9 sur 11 qui sont écroulées ou qui sont inaccessibles, comment on fait Et donc on travaillait comme ça sur le plan déjà à l'époque de la ruche, donc de cette réserve à distance, etc. Et le recteur de l'université qui nous dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que évidemment dans les prochains mois on va réouvrir nous et il va falloir des ressources. Alors on a monté comme ça un plan en 3 étapes, donc la dernière est cette ruche, là, cette réserve universitaire, qu'on lance aujourd'hui et qui aboutira peut-être dans 4 ou 5 ans, parce que c'est la création d'un bâtiment de 3000 m², etc., dans Port-au-Prince. La première étape, c'était de créer des bibliothèques de référence de quelques, 300, 400 livres, à chaque fois par faculté, avec les manuels de base pour reprendre les études. Donc ça a été fait dans les 4 mois qui ont suivi le séisme, avant la reprise des cours en septembre en fait. La deuxième étape, c'était de dire, on sait que créer une bibliothèque universitaire ou une réserve, ça va prendre du temps, est-ce qu'on peut trouver un intermédiaire? Et l'intermédiaire, évidemment, c'est le numérique dans ces cas-là. On a créé ce bâtiment là que vous voyez, enfin vous apercevez, c'est un bâtiment où il y a 60 postes informatiques. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en matériaux écologiques et qui a le mérite d'être parasismique et paracyclonique. Ça fait une centaine de mètres carrés, c'est pas très impressionnant, mais c'est 60 postes informatiques qui sont connectés à Internet au débit et qui permettent en fait d'avoir accès. Et là, la négociation, elle a été faite grâce au soutien de l'Université Antilles-Guyane. D'avoir accès à tous les grands éditeurs et bases de données qu'on retrouve dans toutes les BU de qualité au niveau international. Donc, je ne sais pas, peut-être vous les connaissez, les Cairn, JSTOR, Elsevier, etc. C'est grosso modo, en fait, c'est à peu près le même portail, voire En fait, on a négocié plus, mais le portail de base, c'est celui, l'accès de base, c'est celui qu'a l'Université Anti-Guyane, qui est déjà très tourné sur les ressources électroniques et auquel se sont ajoutés un certain nombre de ressources type Cyberlibris, type ensuite des journaux, Le Monde, New York Times, etc., qui ont ouvert des accès gratuits également à leur serveur.
Et comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on a un cyber, entre guillemets, bibliothécaire qui anime, entre guillemets, cet espace.
Vous la voyez là. C'est la deuxième que vous voyez. Deuxième jeune femme que vous voyez. Alors elle est responsable du centre et elle a une collègue, une co-responsable, et ensuite il y a deux informaticiens qui gèrent la structure, et ensuite l'idée c'est vraiment d'avoir des étudiants vacataires qui peuvent accompagner également les étudiants qui n'ont pas été encore formés, etc. On a un taux de rotation, en fait l'idée c'est d'avoir 400 personnes par jour qui passent, parce que c'est des sessions de 45 minutes. 400 personnes par jour, sur 5 jours par semaine, on est déjà à 2000 personnes. Il y a 15 000 étudiants à l'UEH, donc il fallait quand même que ça tourne bien. Si on arrive à un taux plein comme ça, avec tout le monde qui passe, ça voulait dire quand même beaucoup de rendement.
Et est-ce que vous avez des... Enfin, vous allez faire un bilan, peut-être des sites consultés, des usages? Est-ce qu'il y a ce type d'études qui sont envisagées?
Pas encore, oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est une des... Une des bases de l'action de BSF, c'est évidemment les évaluations de l'impact des structures, et notamment de structures assez expérimentales comme celle-ci. Là, c'est encore un tout petit peu tôt, parce que alors on a eu des problèmes de connexion Internet pendant un certain moment, parce qu'évidemment, on est à Port-au-Prince, donc c'était un des prérequis et une des hypothèses de départ du projet, vous l'imaginez bien. Il y a des connexions Internet pas trop mauvaises à Port-au-Prince. On n'a pas eu de chance, on s'est retrouvé dans une zone un peu désertique. On était sur le site de la faculté des sciences, mais qui en fait drainait toute la connexion. Donc finalement, à côté, la note ne faisait pas le poids. Donc tout ça, c'est arrangé. En fait, la structure a mis un peu de temps à démarrer, parce qu'elle a été ouverte en fait. Elle a été ouverte en septembre, elle a commencé à fonctionner réellement en janvier, parce qu'il a fallu finaliser un certain nombre de choses. Et donc là, elle commence réellement à fonctionner. Donc il y aura évidemment une étude et un accompagnement sur 3 ans de l'UEH sur ce projet, donc on va être très présent. Il y a beaucoup de choses qui se montent, il y a un partenariat avec Google Books qui met à disposition en fait des serveurs locaux, donc des serveurs dans la bibliothèque numérique, justement pour contourner le problème de l'accès à Internet. Et sur ces serveurs, il va y avoir 50 000 livres qui traitent d'Haïti ou de la Caraïbe. Donc c'est des choses quand même particulièrement intéressantes pour les étudiants. On travaille aussi à des séminaires sur les logiciels libres, sur le codage. Donc il y a aussi cette dimension de réduction de la fracture numérique, évidemment, ce que vous voyez au-dessus de la photo, parce que c'était mon troisième axe, il me semble. Je vous ai un peu parlé de l'éducation, je vais passer peut-être un peu plus vite. Il y avait la question de l'accès à l'information et à la culture. Ça, c'est le deuxième axe fort d'intervention de BSF. Donc ça va être les bibliothèques, si vous voulez, de lecture publique, comme on pourrait dire en France, beaucoup de bibliothèques associatives, évidemment, avec lesquelles on travaille. Peut-être la plus symbolique est celle de Kigali, parce que Kigali est capitale du Rwanda, qui n'avait pas de bibliothèque publique depuis le génocide. Et en fait, on est intervenu. Alors ça, c'est un gros projet monté par des Rwandais avec des Américains, et on est intervenu justement sur la co-construction des collections, ce qui est quand même assez intéressant, parce qu'on est dans un pays qui a changé de langue brutalement il y a quelques années, qui sont passés du français à l'anglais, donc on se retrouve dans des situations comme ça, complètement délirantes, en discussion avec le ministre de la Culture qui essaye de parler anglais, évidemment, mais qui parle un anglais pire que le mien, et on finit par lui dire « mais on ne peut pas faire la discussion en français ». Et ça lui pose un vrai problème politique, simplement politique, parce qu'évidemment, les choses se passent extrêmement bien si on commence à discuter en français. On travaille également au Maroc sur des problématiques de lecture publique également. Donc, je vous ai parlé d'Amira tout à l'heure, cette fillette. On s'intéresse quand même beaucoup à ce qui se passe dans le Maghreb aujourd'hui sur ces questions d'accès à la lecture publique, et notamment pour les plus jeunes. Après le printemps arabe, après la révolution en Tunisie, en fait pendant la révolution, il y a 50 bibliothèques qui ont brûlé. pour des raisons différentes, que ce soit des bâtiments qui ont été pris pour cible parce qu'ils étaient à côté de bâtiments municipaux, ou alors parce que c'est les partisans de Ben Ali, quand ils ont taillé la route, c'est un peu la politique de la terre brûlée, donc ils ont mis le feu comme ça à des bibliothèques. Donc 50 bibliothèques qui ont brûlé, c'est pas rien. Alors on est intervenu sur la réouverture l'année dernière de 4 d'entre elles. C'était un collectif de plusieurs structures qui a travaillé là-dessus. Et là, aujourd'hui, on travaille avec le ministère de la Culture tunisien sur la création d'un centre de ressources et de recherche sur les littératures jeunesse au Maghreb. Et c'est particulièrement intéressant parce que, évidemment, dans un contexte de reconstruction politique, sociale, avec évidemment des risques de dérive extrémiste que l'on connaît, la littérature jeunesse, là-dedans, elle a toute sa place, justement, pour ouvrir les enfants sur de nouveaux horizons, les faire réfléchir, faire vraiment cette sensibilisation et cette éducation à la démocratie, à l'ouverture, etc. Et en fait, donc là, c'est un projet que l'on est en train de monter, qui serait à la fois une grande bibliothèque publique d'expérimentation jeunesse, parce qu'il y a aussi un gros problème justement sur l'animation jeunesse dans quasiment tous les pays dans lesquels on intervient. C'est-à-dire que les bibliothécaires ne sont pas formés à ça. On les forme à la bibliothéconomie, à classer un livre, mais on les forme assez rarement à animer une structure. Donc évidemment, travailler sur ces problématiques-là, mais au-delà de ça, travailler aussi avec les éditeurs, les illustrateurs, les auteurs sur justement voilà, comment dynamiser toute cette filière du livre jeunesse au Maghreb. Il y a un vrai enjeu autour de ça, parce qu'il y a des belles éditions qui existent, il y a des belles petites choses qui se font à des échelles encore assez réduites, avec un manque de moyens, et parfois avec un manque de... je dirais, de compétences, entre guillemets, sur la fabrique, de l'illustration, etc. Donc il y a tout un travail de filière à faire. Je vous parlais justement de ces problématiques de filière tout à l'heure, c'est vraiment dans cette logique-là. La fracture numérique, je vous en ai parlé à travers la bibliothèque numérique en Haïti. On travaille quand même beaucoup sur ces problématiques d'informatisation des bibliothèques et d'accès aux nouvelles technologies, aux livres électroniques à travers les bibliothèques. C'est quelque chose qui est important, de plus en plus important. Moi, je me souviens avoir rencontré, c'était il y a un petit moment maintenant, c'était il y a 4 ans, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui m'avait dit « Oh, mais vous êtes bien gentil, mais vous savez, nous, les États-Unis, on a décidé que notre politique de coopération... En Afrique, on a décidé que l'Afrique sauterait l'étape des bibliothèques. » Je veux dire, dans le fond, ça peut nous paraître choquant pour nous qui aimons le livre, etc., mais dans le fond, c'est pas complètement idiot. C'est de dire qu'aujourd'hui, en Afrique, tout le monde a un téléphone portable. Peut-être que, et certainement dans 5 ans, tout le monde aura un smartphone sur lequel il pourra regarder. Il y aura la 3G partout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on va au Cameroun, dans les champs, on a la 3G. Enfin, bon, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que, évidemment, le modèle du livre papier tel que nous le concevons est extrêmement important pour sensibiliser au livre, pour ouvrir vers la lecture, etc. Mais il y a plein d'autres formes pour avoir accès à l'information et à la culture plus généralement qui existent. Alors on s'intéresse beaucoup à ces problématiques-là, évidemment par l'informatisation, mais aussi par la question des contenus électroniques, parce que moi c'est ce que je reproche beaucoup à tous ces programmes comme ça où on apporte les canaux, on apporte le matériel en Afrique, on va apporter les tableaux numériques interactifs, on va apporter les ordinateurs. Et finalement, on n'a rien à mettre dedans, quoi. On laisse les populations locales en leur disant « Bon, vous vous débrouillez maintenant, vous les faites fonctionner. » Bon, ben, très bien, ils ont été formés pour les faire fonctionner, mais finalement, il n'y a qu'un exercice qui tourne en boucle sur la machine, parce que des contenus qui sont produits localement et qui sont adaptés, il n'y en a pas. Donc, moi, je pense réellement que c'est le rôle d'une organisation comme la nôtre d'accompagner la production de ces contenus. Donc, on s'intéresse beaucoup à ça en ce moment. La promotion du patrimoine, évidemment, la promotion du patrimoine, c'est quelque chose d'important et c'est un des rôles majeurs d'une bibliothèque. Alors, pas de toutes les bibliothèques, pas dans tous les contextes, mais en fait, on s'aperçoit, alors vous voyez à droite, là, c'était la fameuse mission de sauvetage. Là, on était donc dans une des plus anciennes bibliothèques patrimoniales de Port-au-Prince. Les caisses qui descendaient, c'était des manuscrits du XVIe siècle, voire même des manuscrits qui étaient ramenés par les Pères Blancs qui venaient en Haïti. Donc à ces époques-là, il y avait des traités d'indépendance d'Haïti, enfin des choses complètement folles comme ça, qui sont encore stockées sous des bâches à Port-au-Prince. Donc vous imaginez quand même les situations. Mais les bibliothèques, au-delà de ça, en fait, c'est un exemple que je donne souvent, mais au Nord-Niger, où on travaille avec une bibliothèque publique, ils avaient un problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver de livres en tamashek, en peul et en haoussa, dans les langues du coin, on pourrait dire. Alors on a essayé d'en trouver, évidemment, on en trouve un petit peu dans la librairie de Niamey, la librairie de Niamey, on pourrait dire, il y a quelques productions comme ça en langue locale, mais les gens se disaient, mais nous on veut lire aussi dans nos langues, ce qui est légitime, je dirais. Donc en fait, on a monté avec la bibliothèque un atelier de micro-édition et de relure au sein de la structure. Et en fait, les bibliothécaires, comme ça, vont à la rencontre de la population pour collecter des contes, des histoires traditionnelles dans les langues locales, et ils font des petites éditions avec la version tamashek et une traduction en français, en haoussa, enfin dans différentes langues. Alors c'est pas évidemment de la production, parce qu'on va produire 1, 2, 3 exemplaires, mais c'est vraiment pour la bibliothèque. Et je peux vous dire que peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, j'espère pas, mais peut-être quand ces langues peut-être auront disparu un jour, ces publications, elles auront une certaine valeur. Et ça, c'est vraiment, je dirais, aussi des projets qui participent à la constitution de ce patrimoine qui est si important, parce que les langues, en fait, la plupart des langues ne seront pas écrites. Écrire une langue, déjà, c'est un vrai défi. Et pouvoir ensuite dire, voilà, on écrit ces langues, on les conserve, c'est encore quelque chose d'assez fondamental. C'est également le patrimoine immatériel, parce que évidemment, je parle de l'écrit, mais voilà, je vous ai parlé des langues. On travaille aussi justement sur la collecte. La bibliothèque peut aussi participer à la collecte de danses, de chants traditionnels, même participer à la collecte d'un patrimoine local pour un projet pour le portage de la reconnaissance à l'UNESCO, des choses comme ça. On a travaillé au Congo avec une structure qui a cette vocation-là de devenir vraiment un centre culturel multimodal, si je puis dire, qui soit à la fois sur ces problématiques de patrimoine matériel et immatériel, et également d'accès à l'information et à la culture. Je termine là-dessus, sur la professionnalisation, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, je vous l'ai souligné tout à l'heure. La professionnalisation, pour nous, ça veut dire deux choses importantes. Ça veut dire évidemment l'augmentation des capacités, entre guillemets, c'est-à-dire la formation des bibliothécaires. Alors cette formation, elle peut se faire de plein de façons différentes, je pense qu'Anna reviendra dessus tout à l'heure. Mais la professionnalisation, c'est aussi la mise en réseau. C'est aussi, je dirais, le fait, quand on est professionnel, on appartient à un même corps de métier, à une même façon de parler, on a un langage, on a un discours commun, et on a surtout cette possibilité de s'associer et de travailler ensemble pour être plus fort. Et notamment pour être plus fort auprès de qui ? Auprès des gouvernements, des États, des pouvoirs publics. Et ça, c'est extrêmement important, parce que je crois que la chose la plus fondamentale aujourd'hui, si on fait un constat de ce que c'est que les bibliothèques dans le monde en développement, c'est l'extrême isolement des bibliothécaires. Des bibliothécaires qui ont souvent reçu aucune formation initiale, donc ils se débrouillent un petit peu avec leur savoir-faire, des pratiques qu'ils ont pu acquérir comme ça à droite à gauche, ou des petites formations sur le tas. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a très peu de réseaux qui sont développés. Et finalement, on retrouve beaucoup de bibliothécaires qui ne savent même pas qu'il y a une librairie dans la ville d'à côté, qui n'ont jamais tissé ces liens, etc. Vous allez me dire, il n'y a pas l'envie. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi parce que quand on n'a pas cette connaissance, en se disant, on est, un pays comme le Cameroun, il doit y avoir peut-être 200 bibliothèques. Si tout le monde se mettait ensemble, vous imaginez le poids qu'il y aurait s'il créait un syndicat pour justement faire en sorte qu'il y ait une loi sur le livre au Cameroun qui ait vraiment du poids et de l'impact sur et des budgets pour la lecture publique, etc. Peut-être qu'il pourrait faire bouger les choses. Et l'idée justement dans laquelle nous concevons la professionnalisation, c'est vraiment dire, ok, on on fait des formations, parce que c'est aussi, la formation, c'est aussi le moyen de regrouper des gens, d'augmenter évidemment ces fameuses capacités. Mais c'est ça, c'est le dire, mettre les gens ensemble, les mettre autour d'une table et dire maintenant vous discutez et vous essayez de co-construire ce que peut être les bibliothèques dans votre pays, de ce que pourrait être une politique du livre, etc. Et en fait, cette logique d'empowerment, si je puis dire, des bibliothécaires, elle aboutit sur la prise et sur l'empowerment de toute la société et de tous ceux qui fréquentent la bibliothèque. Tu disais tout à l'heure, Mélanie, enfin, tu posais la question de la défense de la bibliothèque par les usagers. Évidemment, avec un bibliothécaire qui appartient à des réseaux et qui travaille avec d'autres professionnels, on est sur on a aussi des usagers qui bénéficient de ces réseaux et qui bénéficient de cette ouverture. Alors, on a ce chiffre de 400 bibliothécaires formés depuis 2007. Ce qui est intéressant, c'est voir justement quelles sont les formations qui sont récurrentes et qui reviennent, qui permettent justement de tisser durablement ces réseaux. On a beaucoup travaillé là-dessus en Haïti, mais on l'a beaucoup fait aussi au Cameroun. Et au Cameroun, depuis maintenant 3 ans, je pense, il y a des séminaires tous les 6 à 12 mois qui se tiennent. C'est extrêmement important, ça, parce que finalement, les gens se retrouvent. Et, j'ai animé un séminaire il y a 2 mois, quelque chose comme ça, à Yaoundé. Je peux vous dire que les gens, ils se connaissaient et qu'ils ont des projets ensemble. Quoi. Ça commence. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que finalement, pour conclure, je dirais que l'ambition de Bibliothèques sans frontières, derrière tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est, je dirais, d'avoir ce rapport de force nécessaire aujourd'hui pour faire en sorte que les bibliothèques soient... je dirais des éléments compris et intégrés comme éléments centraux dans les politiques de développement international. Depuis une dizaine d'années, les objectifs de développement du millénaire ont fait de l'éducation, et notamment de l'éducation fondamentale, l'action prioritaire pour tous les gouvernements et pour tous les États de ces zones en voie de développement. C'est quelque chose d'extrêmement important, évidemment. Il y a eu beaucoup d'investissements, d'argent qui a été mis là-dedans. Les résultats sont intéressants. On va arriver en 2015, je pense, avec une scolarisation quasiment totale des enfants. Sauf qu'il faut voir dans quelles conditions on est. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions avec 80 gamins par classe, avec des professeurs qui sont pris de plus en plus tôt, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de les former. Quand on ouvre comme ça des classes massivement, c'est difficile d'avoir les ressources humaines qui suivent. Et en fait, on se retrouve aussi dans des situations où on a mis tout l'argent sur l'éducation et on a un petit peu oublié tout ce qu'il y avait autour de l'éducation et qui est aussi important. C'est-à-dire que quand on fait de l'éducation avec des professeurs qui sont peu formés, on va avoir une éducation qui va être très verticale, c'est-à-dire un professeur qui ne va pas pouvoir souffrir une question d'un enfant, parce que si l'enfant pose une question auquel il ne sait pas répondre, c'est tout son rôle de professeur qui est mis en danger. Donc en fait, on est dans quelque chose où il n'y a absolument pas de prise de parole des enfants. Je me suis retrouvé au Niger dans une famille où je demandais à un petit gamin qui avait 7 ans peut-être, je lui ai dit, vas-y, ramène-moi le livre que tu as emprunté à la bibliothèque. Il me ramène le bouquin, il ne parlait pas du tout. Il me ramène le bouquin, il me le pose sur les genoux comme ça, je regarde le livre, je lui dis, tu me racontes l'histoire ? Et alors là, son œil s'est éclairé, il a mis les mains derrière son dos et il a commencé en se disant « récitation ». Et il a récité son livre. Et c'était incroyable, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir un dialogue comme ça en français. Alors il l'avait certainement dans sa langue maternelle, mais c'était extrêmement compliqué d'avoir ce dialogue-là avec les enfants. Et finalement, on retrouve ça dans tout le processus éducatif. Et pour nous, les bibliothèques, c'est quelque chose qui va venir s'ajouter à l'école, mais s'ajouter finalement à l'école, mais à l'école de la vie, quoi. Tout au long de la vie, on va pouvoir avoir les bibliothécaires, les bibliothèques, et c'est tout ce rôle d'éducation fondamentale, mais aussi de formation tout au long de la vie qui est extrêmement important. Et c'est pas simplement de la formation pour apprendre quelque chose, c'est aussi de la formation pour s'ouvrir sur le monde et l'éclairer en retour. C'est ce qu'on aime dire à Bibliothèques sans frontières. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Anna qui va, je pense, continuer en vous expliquant plus, peut-être dans le détail, comment fonctionnent les partenariats et comment on travaille sur ces différentes problématiques.
Oui, alors je vais peut-être juste en transition, rajouter quelques mots avant de te passer la parole, Anna. En fait, je suis vraiment très contente de tout ce que tu as pu évoquer aujourd'hui, parce que je me rends compte que ça fait vraiment écho à un certain nombre de problématiques qui sont propres à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, à la fois par les zones géographiques couvertes dans lesquelles vous travaillez, sur lesquelles vous travaillez, le récit que tu peux faire des difficultés qu'on éprouve à faire des acquisitions en fait, dans certaines zones, effectivement des chaînes du livre qui sont un peu parfois brisées et pour lesquelles on est obligé de travailler dans une étroite collaboration avec des fournisseurs qui vont localement sur les marchés chercher des ouvrages en langue originale, en langue vernaculaire. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui est partagée à la bibliothèque. Et également les choix qui sont faits de développer des projets numériques qui s'expriment à la BULAC à travers le choix d'un catalogue multi-écriture, multilangue, qui a été développé à partir d'un logiciel libre qui s'appelle Koa et qui, je pense, vous intéressera sûrement, puisque de toute façon c'est un logiciel libre et que vous serez peut-être amené à en faire usage dans des établissements que vous allez équiper, informatiser. Et donc naturellement, cette question de l'échange et de la coopération, elle m'amène à te donner la parole, Anna, pour évoquer justement l'ensemble des actions que vous menez, donc naturellement dans des pays non occidentaux, hors Europe, mais aussi en France, en Europe. Et alors, comment se décline cette action de BSF, à la fois en tant que ONG et puis avec des bénévoles?
Donc bonjour à tous, moi donc, je suis Anna Soravito, la coordinatrice des projets de BSF. Donc Jérémy, vous avez déjà fait un bon tour d'horizon de ce qu'on fait. On voulait effectivement insister un peu dans le cadre de cette conférence à la BULAC sur les liens avec les bibliothèques françaises qui se sont établies et tous les projets de coopération qui ont été mis en place et qui permettent de favoriser aussi l'ouverture des bibliothèques françaises, leur ouverture sur le monde extérieur et de faciliter les échanges. Donc en 5 ans, puisque 5 ans c'est finalement assez court, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et c'est vrai que, comme le disait Jérémy tout à l'heure, le modèle français de bibliothèque publique, il est parfois un petit peu vieillissant, il aurait besoin d'être un peu rénové et d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, ça fait jamais de mal. Et c'est aussi en cela que c'est intéressant de tisser des échanges entre des bibliothèques du monde entier et les bibliothèques publiques ou universitaires françaises. Donc effectivement, BSF facilitateur de coopération, puisque a permis de renforcer l'ouverture des bibliothèques françaises sur l'extérieur, de favoriser les échanges, et aussi a permis la mise en place de coopérations durables entre des bibliothèques étrangères et des bibliothèques françaises, et puis de favoriser la mise en réseau des professionnels. Donc c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est très important pour nous que de renforcer le réseau et les expériences, enfin les échanges d'expériences entre des bibliothécaires du monde entier. Donc concrètement, ça se matérialise par différentes actions. La première partie, c'est effectivement la possibilité pour des bibliothèques de faire des dons de livres ou d'organiser des bibliobraderies solidaires. Alors, Jérémy vous a expliqué un petit peu tout à l'heure notre vision du don de livres et les limites que celui-ci pouvait avoir. Effectivement, on a construit une politique de don raisonné, toujours en lien avec le partenaire local, en essayant de répondre au plus près à ses besoins et à ses attentes. Alors, très concrètement, Bibliothèque sans frontières a un entrepôt qui est donc dans les Yvelines, à Épône, juste à côté de Mantes-la-Jolie, qui fait un petit peu plus de 1200 m², où on a un stock tournant d'à peu près 300 000 livres et un flux de près de 10 000 livres qui rentrent par semaine. Donc c'est quand même des chiffres assez importants. Alors ces livres, ils viennent de partenariats avec des éditeurs, donc ça peut être des livres neufs pour la plupart, qui qui ont vocation à partir au pilon, mais donc qui nous sont donnés. Alors là-dedans, il y a des choses très bien comme des choses moins bien. Des partenariats avec donc, des bibliothèques françaises et aussi internationales qui nous donnent des ouvrages qui sortent de leur collection, et puis également des dons de particuliers, donc, comme vous ou moi, qui ont des ouvrages à donner. Là-dessus, on a des critères qui sont assez précis. Vous avez peut-être vu en haut un petit guide du don de livres donc, qui précise qu'on ne prend que des ouvrages en très bon état, avec des codes-barres, avec des années d'édition pour certains types d'ouvrages. Et puis des ouvrages qu'on ne prend pas de type les manuels scolaires parce que ça ne correspond pas au programme dans les pays avec lesquels on travaille et qu'on on insiste vraiment sur le fait que les manuels scolaires c'est quelque chose qui doit être produit localement et acheté par les États. Donc les bibliothèques françaises peuvent nous donner des livres et c'est ce qu'elles font. On a beaucoup de partenariats avec, avec différents types de bibliothèques en se disant que voilà, ce don doit être intelligent et raisonné. Ensuite, une fois que tout ça arrive dans notre entrepôt, il y a un tri, bien évidemment, une sélection et une informatisation de notre catalogue qui est en cours en ce moment et qui va permettre donc aux bibliothèques partenaires de venir directement choisir les ouvrages qui les intéressent dans une logique de politique d'acquisition, comme le disait tout à l'heure Jérémy, pour vraiment que ce soit non pas ben voilà, il y a plein de livres proposés donc on va prendre tout ce que vous nous donnez, mais une vraie réflexion sur quel type d'ouvrages sont nécessaires et utiles dans notre bibliothèque. Donc voilà, voilà à peu près comment ça se passe. Donc du coup, il y a aussi des livres qui sont ensuite revendus parce que ne correspondant pas aux besoins et qui nous permettent de financer des projets. Et puis aussi des livres qui sont tout simplement recyclés parce que dans des états pas corrects. Donc ça, c'est une des possibilités pour les bibliothèques de nous accompagner. Mais elles font aussi autre chose qu'on est en train de développer en ce moment parce que c'est assez pertinent comme modèle, que sont les bibliobraderies solidaires. En fait, l'idée, c'est que plutôt que de nous donner les ouvrages qu'elles désherbent, les bibliothèques puissent organiser une vente de livres au sein de leur bibliothèque. Et que, du coup, ça permet à la population locale de bénéficier d'ouvrages d'occasion à des prix très bas. Et puis que ce sont des livres généralement qui sont un peu anciens et pas forcément adaptés à nos besoins. Et que, du coup, ensuite, le profit de cette vente soit reversé à BSF. Avec cet argent, on pourra, par exemple, acheter des livres localement auprès d'éditeurs ou de libraires locaux. Qui correspondent mieux aux besoins. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place depuis l'année dernière. On a notamment eu des bibliobraderies organisées à Boulogne-sur-Mer, à Vincennes, les médiathèques de Nancy, enfin un certain nombre de grandes bibliothèques qui ont organisé ce genre d'opérations. Donc ça c'était pour la partie don. Si vous avez des questions après, vous n'hésiterez pas à nous les poser. Et puis il y a effectivement des petits dépliants qui vous expliquent un peu comment ça fonctionne. Alors après, ce qui est très important, c'est effectivement la partie échange et professionnalisation. Donc Jérémy vous en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment une de nos activités principales que de favoriser la professionnalisation des bibliothécaires. Mais pas que, puisqu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne du livre et de favoriser donc les échanges de compétences entre les professionnels. Donc ces formations, concrètement, elles peuvent se dérouler de plusieurs manières. Elles peuvent se dérouler sur place, donc ça veut dire que ce sont des formateurs qui partent faire des formations directement dans les bibliothèques locales sur des durées qui peuvent aller d'une semaine à un mois. Qui sont généralement des professionnels ici en France et qui partent sur des temps de congé personnel en tant que bénévole. Donc ça, on en a de plus en plus sur des thématiques un petit peu spécialisées ou plus générales qui peuvent aller donc de la gestion de base d'une bibliothèque à l'animation en passant par l'accueil des publics ou des questions un peu plus techniques d'informatisation de bibliothèque. Donc là, sur la photo, ce que vous voyez, c'était effectivement un séminaire qui s'est passé au Cameroun il y a quelques mois sur justement là, plutôt la question de la stabilité financière des bibliothèques et comment réfléchir à la mise en place d'activités génératrices de revenus au sein d'une bibliothèque pour qu'elle s'autonomise financièrement, puisque c'est effectivement une problématique à laquelle sont confrontées à peu près toutes les bibliothèques avec lesquelles on travaille, l'État ne soutenant que très peu la question de la lecture publique. Donc ça peut se passer comme ça, ça peut aussi se passer dans l'autre sens, avec de l'accueil de stagiaires étrangers dans des bibliothèques ici en France. En 2011, on a accueilli 7 stagiaires en France sur des périodes assez longues, puisqu'allant généralement de 2 à 3 mois. un important partenariat dans le cadre du projet universitaire haïtien avec l'ENS, donc un partenariat entre l'École normale supérieure Bibliothèque sans frontières et l'Université d'État d'Haïti. L'ENS va nous faire, pour le projet de réserve centrale dont on vous parlait tout à l'heure, un important don d'ouvrages désherbés de ses collections. C'est des ouvrages qu'ils ont en double. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on accueille des stagiaires haïtiens qui viennent directement choisir dans les collections de l'ENS ce qui les intéresse en fonction de leur spécialisation. Donc, par exemple, dans le domaine de l'histoire de l'art, les bibliothécaires spécialisés sur ces questions viennent choisir ce qui les intéresse, travaillent avec l'ENS sur comment sortir les ouvrages des collections, et ensuite, ils partiront directement pour Haïti. Donc, c'est une démarche qui est beaucoup plus pertinente et qui permet de cibler vraiment les besoins et les attentes. Et en même temps, parallèlement à ça, ils suivent des formations spécialisées donc sur des domaines précis, notamment les questions des ressources numériques, mais aussi des questions plus larges d'accueil du public ou de valorisation. La BULAC a accueilli, il y a 2 mois, là, c'est ça, une stagiaire haïtienne sur la partie, justement, médiation culturelle et comment mettre en place des programmes d'action culturelle au sein d'une bibliothèque, ce qui est quelque chose qui est assez peu fait pour l'instant au sein de l'Université d'État d'Haïti. On a aussi accueilli une bibliothécaire marocaine qui s'est formée sur les questions de jeunesse en participant notamment au Salon du Livre de Montreuil ou des choses comme ça. Et une bibliothécaire nigériane qui s'est formée sur les questions de la reliure en passant 2 mois à Toulouse, à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, au sein de l'atelier de reliure. Et du coup, là, elle s'est vraiment spécialisée sur les questions d'entretien, de réparation des ouvrages et de reliure. Donc des questions un petit peu techniques, mais qui sont très importantes dans des contextes où on a peu d'ouvrages et où, du coup, il faut en prendre grand soin, et aussi quand on a des conditions climatiques qui font que les ouvrages s'endommagent très vite. Voilà grosso modo comment ça se passe au niveau des formations. On a aussi créé une plateforme d'échange qui s'appelle savoirsolidaire.net, du coup qui est en fait une plateforme internet participative, l'idée étant que c'est un outil gratuit, libre d'accès, ouvert à tous, qu'on a lancé en 2010. Le site s'organise en 3 volets. Un volet centre de ressources documentaires avec des outils, des ressources regroupées d'autres plateformes ou d'autres sites ou des contenus qui sont produits à destination vraiment d'un public de bibliothécaires francophones, en se disant que, justement, quand on parlait tout à l'heure de l'isolement des bibliothécaires, un bibliothécaire dans un village à Madagascar qui bénéficie d'un accès Internet assez limité et qui est peu en relation avec d'autres professionnels, ça va être un outil très intéressant pour lui que de pouvoir avoir accès à une plateforme de ce type et trouver des contenus rapidement et tous regroupés en un même endroit. Parce que c'était vraiment le point de base du montage de cette plateforme, c'est qu'on constatait qu'il y avait énormément de choses, mais avec des niveaux de difficulté qui étaient très variables et difficiles à visualiser en un instant. Donc c'est l'intérêt de ce centre de ressources qui, en développement, l'idée, c'est vraiment qu'il devienne plus participatif avec des contenus produits par les bibliothécaires du monde entier. Pour l'instant, on est en francophone, mais peut-être que ça aura vocation à devenir une plateforme multilingue. Donc il y a cette partie centre de ressources, il y a une partie réseau social, donc un peu sur un modèle d'un LinkedIn ou d'un Facebook pour bibliothécaires, pour justement faciliter les échanges, la création de groupes, de discussions sur des thématiques précises. Et puis une section actualité, là, qui offre la possibilité d'avoir des informations sur ce qui se passe dans le domaine du livre et plus généralement dans l'ensemble des chaînes du livre un peu partout dans le monde. Donc voilà, vous pourrez retrouver donc ce site à l'adresse www.savoirsolidaire.net. Enfin, un petit mot donc sur ce qu'on fait en France et les liens qui ont pu se créer entre des bibliothèques françaises et des projets mis en place par BSF et qui ont favorisé la rencontre avec des publics un peu plus éloignés du livre. Donc Jérémy parlait tout à l'heure d'Alpha, résident d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Donc c'est le premier projet qu'on a monté en France. C'est un projet qui s'appelait Regards sur le monde, avec 3 centres d'accueil de demandeurs d'asile en région parisienne, Boissy-Saint-Léger, Beauchamp et Gargenville. Et l'idée était vraiment de créer des bibliothèques métissées qui soient des passerelles vers les bibliothèques publiques et qui proposent des collections multilingues. Donc ça a été effectivement très compliqué de se procurer certains ouvrages dans des langues de type pour les résidents éthiopiens en tigrinya, pour les résidents tibétains en tibétain. On a fait ce qu'on a pu, mais l'idée était aussi d'inverser un peu les flux et de faire venir des livres en langue étrangère en France et de valoriser aussi ces productions peu connues. Vous, effectivement, vous avez accès à des choses, mais ce n'est pas le cas partout. La plupart des bibliothèques françaises sont très peu dotées en collections en langue étrangère, hormis les langues d'études, à savoir anglais, allemand, espagnol. C'est quelque chose qui se développe un petit peu, mais qui prend du temps, notamment sur les collections arabophones, par exemple, turcophones. Alors qu'on a des populations très importantes qui sont locutrices de ces langues, on a du mal à trouver dans les bibliothèques publiques des fonds dans ces langues qui intéressent pourtant les populations qui vivent à proximité de ces bibliothèques. Donc c'était aussi pour nous important de faire passer ce message et de sensibiliser les bibliothèques françaises au fait qu'il faudrait qu'elles renforcent leurs collections en langue étrangère et aussi à leur donner des outils sur comment trouver des ouvrages en langue étrangère ici. Donc ce programme, il a bien fonctionné, permis effectivement l'intégration par exemple d'Alpha qui a trouvé un boulot aux archives, mais aussi simplement ouvert un peu ces résidents de CADA qui sont dans des situations difficiles et de perte de repères par rapport à leur culture d'origine très souvent. On a ensuite monté un deuxième projet avec des centres d'hébergement, centres de stabilisation, centres d'accueil de jour pour des populations sans domicile fixe. Donc ce programme s'appelle Tournons la page, il a débuté fin de l'année dernière sur des centres en région parisienne et Paris et région parisienne. Et là encore, l'intérêt est de renforcer le lien avec les bibliothèques publiques, donc de favoriser les échanges. Et en fait, ça marche assez bien, parce que par exemple, sur le CADA de Boissy-Saint-Léger, d'où venait Alpha, tous les résidents du CADA sont maintenant inscrits à la bibliothèque publique, alors qu'il y a 2 ans, ils ne savaient même pas qu'il y avait une bibliothèque publique à quelques 200 mètres du CADA. Enfin, en fait, c'est des structures qui ne se connaissaient pas. Donc c'est là qu'on se dit qu'on a aussi un rôle à jouer ici, et de faciliter des interactions de ce type. Et puis enfin, un projet qui est un petit peu différent qu'on mène avec un public scolaire qui s'appelle Un livre pour demain. On en est cette année à notre 3e édition de ce programme, qui en fait là est, enfin, l'idée est de travailler sur le public scolaire entre différents pays. On a travaillé d'abord entre le Mali et la France, et puis cette année entre Haïti, Mali et France, avec 4 établissements scolaires dans chaque pays, avec des jeunes qui avaient entre 14 et 17 ans et qui en fait ont échangé tout le long de l'année scolaire en écrivant des textes. Donc ils ont été accompagnés par des animateurs et des slameurs. Ils ont écrit des textes, se les ont échangés et le projet s'est terminé par une visioconférence où ils disaient en fait leurs textes, donc une visioconférence entre les 3 pays, et puis des scènes slam où les élèves présentaient oralement leurs textes. L'idée, c'était vraiment de montrer que en fait, des adolescents dans des continents très différents, qui vivent dans des contextes très différents, ont les mêmes questionnements vis-à-vis du livre, de l'écrit, justement ce rapport au numérique qui change, à qu'est-ce que c'est que l'écriture, quelle est la place du livre et de l'écrit dans leur vie. Et dans des contextes tels que vivre à Bamako, Port-au-Prince, ou c'était le cas sur, par exemple, au Kremlin-Bicêtre ou à côté d'Evry, des rapports qui sont assez similaires en fait à l'écrit. Donc c'est un projet qui est vraiment assez chouette, qui a favorisé des rencontres interculturelles intéressantes. Et on a encore, là une fois, lié les bibliothèques à tout ça en favorisant le fait que les jeunes se rendaient à leur bibliothèque municipale et en y organisant des rencontres avec des écrivains. Donc les jeunes d'Evry, par exemple, ont eu l'occasion de rencontrer Dany Laferrière en mars à la bibliothèque municipale, justement pour échanger et de comprendre qu'est-ce que c'est le métier d'écrivain aujourd'hui. Ça leur paraissait complètement inconnu à la base, et peut-être que ça créera des vocations. Voilà en très gros comment ça se passe sur la coopération. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
J'aimerais bien juste rajouter quelque chose. C'est vrai que quand tu parlais du projet Regard sur le monde qui consistait à faire l'acquisition d'ouvrages en langue étrangère et des difficultés de les faire venir et de leur absence dans les bibliothèques, notamment de lecture publique, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier et auquel vous pensez aussi beaucoup à BSF, c'est la question du traitement de ces ouvrages, c'est-à-dire que faire venir des ouvrages en langue étrangère, c'est souvent difficile, mais c'est quand même parfois possible. Par contre, derrière, proposer un traitement informatisé, multilangue, multi-écriture, donc trouver des personnels qui soient capables à la fois de maîtriser les techniques bibliothéconomiques, les langues, d'en faire l'acquisition et puis aussi la promotion, ça c'est un travail assez complexe, souvent pour des bibliothèques de lecture publique, mais aussi par exemple à la BULAC, pour recruter des personnels dans des langues spécifiques. Voilà, c'est pas évident, d'où l'intérêt d'une coopération aussi sur ces domaines qui sont très précis. Mais si vous avez dès maintenant des questions, en fait, je vous invite à... Enfin, n'hésitez pas à les poser. En fait, on enregistre, donc je vais demander à mon collègue Didier de bien vouloir... passer le micro au premier rang, parce que je crois qu'il y a une question.
Oui, bonjour, Éric Meyer. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire par rapport à ce que vous avez dit sur les bibliothèques qui cherchent à acquérir des ouvrages dans les langues des pays, enfin des gens qui y sont arrivés. Je vous signale que les bibliothèques de Seine-Saint-Denis, autour de Saint-Denis, La Courneuve, Stein ont une sorte de réseau et par exemple ont créé un catalogue des ouvrages en langue tamoule qui est très intéressant. Bon, donc il y a des initiatives, effectivement il faudrait les généraliser, les multiplier, et je pense que de ce point de vue là la BULAC peut jouer un rôle par rapport à vos projets, c'est-à-dire avoir certaines compétences linguistiques qui peuvent aider à la constitution de catalogue, enfin de constitution de fonds d'ouvrage dans ces langues-là.
Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec la BULAC. Sur la Seine-Saint-Denis, effectivement, c'est un des bons exemples de bibliothèques qui acquièrent des ouvrages en langue étrangère, mais c'est encore assez rare. Et on a déjà travaillé un peu avec eux, justement, pour voir ce qui était intéressant à prendre.
Alors, on a une question là-haut et... Après, une autre question.
Oui, bonsoir. J'ai une question à propos des bibliobraderies solidaires, que ce soit en médiathèque ou en BU. Comment vous arrivez par rapport au fait que les livres ont été achetés sur de l'argent public ?
C'est une décision municipale, en fait. Ouais. Alors, en BU, je ne crois pas que ça se soit fait. C'est peut-être simplement une décision du conseil d'administration. Par contre, en municipalité, c'est un des obstacles. En fait, les bibliothécaires de bibliothèques municipales nous disent souvent « Ah oui, mais c'est trop compliqué à organiser ». C'est pour cette raison qu'on a fait un petit, mais qui doit être en haut, hein, un petit document dessus avec un témoignage justement d'une bibliothécaire qui dit que finalement c'est pas si compliqué que ça à faire. Il suffit simplement d'avoir une décision au conseil municipal qui dise « Ok, ces livres sont... sortie de notre inventaire et vendue au profit de l'association.
Quelles sont vos sources de financement ?
On n'a pas parlé de ça, effectivement. J'ai pas parlé du tout du budget de l'association. BSF a connu une croissance extrêmement forte depuis 5 ans. Vous voyez avec évidemment le nombre de projets que l'on monte. Grosso modo, on a un budget qui a doublé tous les ans depuis 5 ans. Pour atteindre cette année environ 1 600 000 euros. Donc c'est un petit budget d'association, hein. C'est pas non plus une grosse ONG humanitaire type MSF, etc. Bon, on a que 5 ans d'existence, mais ça reste, c'est déjà une croissance qui est forte et qu'il faut suivre en termes aussi de ressources humaines, etc. Au niveau des budgets, en fait, la transition s'est faite en 2010. Avec en fait le passage majoritairement de fonds privés par rapport aux fonds publics. Il faut voir qu'on est arrivé en fait dans un moment où l'État se désengage massivement de tout ce qui est coopération culturelle à l'étranger Et finalement, les acteurs traditionnels qui faisaient du don de livres, en fait, les acteurs associatifs qui étaient dans le paysage, souffrent beaucoup de ça parce qu'ils avaient beaucoup de subsides publics. Et finalement, on s'est relativement peu appuyé sur des soutiens publics. On a assez peu de soutiens. On a des soutiens du ministère de la Culture. On travaille avec le ministère des Affaires étrangères sur différents projets. Mais finalement, ça représente des sommes assez minimes de notre budget, peut-être 10-15%. La coopération décentralisée permet aussi de financer un certain nombre de projets. On travaille par exemple sur la Roumanie avec le conseil régional d'Aquitaine, avec le conseil général de l'Essonne sur la Tunisie, avec le conseil général des Yvelines sur le Togo. Donc il y a différents projets comme ça avec la coopération décentralisée. Donc ça, c'est pour ce qui est des ressources publiques, ressources internationales publiques, on pourrait dire. Alors, on a des gros projets avec l'Union européenne, notamment en Haïti, qui permettent donc de financer notamment un projet sur des bibliothèques mobiles qu'on appelle les bibliotap-tap. Les taxis haïtiens sont les tap-tap, donc c'est les bibliothèques mobiles comme ça. Il y en aura trois qui seront mis en circulation. Le premier bus est la première bibliotap-tap est mis en circulation début juillet. Et ensuite, on a des financement de l'ordre privé, donc des fondations, d'entreprises, des mécènes, alors des particuliers, des grands donateurs, très peu de particuliers par rapport à notre budget, et nous développons ça et nous incitons évidemment les gens que nous rencontrons à essayer de faire un don à l'association, parce que c'est évidemment, je dirais, ce que nous devons développer pour asseoir et assurer la pérennité de la structure, parce que ça nous rend quelque part assez indépendants de différents bailleurs qui pourraient dire, moi je vous retire votre subvention parce que vous travaillez dans tel pays, etc. Donc on essaye justement de développer ces fonds issus du don de la générosité publique, même si ça représente une petite partie aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, il se trouve que nous avons reçu en 2010, et c'est ça qui a fait un petit peu ce tournant, le Grand Prix de la Fondation, le Grand Prix culturel de la Fondation Louis D, qui est un prix qui est remis par l'Académie française. Et c'est un grand prix qui nous a été attribué pour notre action en Haïti, une valeur de 750 000 euros sur 3 ans. Donc vous imaginez effectivement que ça fait un grand apport financier. Et c'est là-dessus qu'ont été menées la plupart des actions en Haïti, avec un apport complémentaire de la Fondation de France. Donc tous ces bailleurs-là font... on constitue aujourd'hui un budget relativement élevé, mais ça veut aussi dire que la plupart de nos ressources sont dirigées sur des projets, ce qui est évidemment bien pour la transparence et l'efficacité de l'association, c'est-à-dire qu'on est financé pour monter un projet. Sauf que ça veut aussi dire que tous les frais qu'on pourrait appeler les frais transversaux, c'est-à-dire des frais qui restent importants, de l'administratif, un directeur administratif et financier, on en a recruté un cette année, des frais de communication, puisque c'est aussi important de communiquer, de sensibiliser le public, et ensuite des frais, par exemple, de logistique, les frais de la mission collecte, de collecte de livres, etc. Et tout ce qui va être les frais d'ouverture de programme, c'est-à-dire aller dans de nouveaux pays, rencontrer des partenaires, etc. Bah, tout ça, il faut qu'on arrive à les financer avec des ressources qui sont relativement maigres, parce que aujourd'hui, l'immense majorité des bailleurs financent des projets. Et on a même des bailleurs, je ne les citerai évidemment pas, mais des fondations privées qui nous disent « Ah oui, non, moi je ne finance pas de ressources humaines. » C'est-à-dire que je finance, vous avez un projet de bibliothèque en Afrique, moi je veux bien financer une partie des travaux de réaménagement, mais je ne financerai pas les ressources humaines pour l'administration du projet. Et après, on entend tout le discours sur la nécessité de la professionnalisation des ONG. Donc c'est, évidemment, tout ça est très contradictoire. On a créé BSF avec une vraie logique professionnelle derrière, en disant on va monter un projet professionnel avec des acteurs un acteur qui joue la transparence et qui joue surtout l'évaluation de ses projets, et toujours se poser la question de savoir comment on peut faire mieux, faire différemment, etc. Et tout ça, évidemment, ça génère des coûts, forcément, mais qui sont relativement réduits. Et encore une discussion avec notre commissaire aux comptes qui nous disait, mais comment vous faites tout ça avec si peu de ressources humaines? Bah oui, aujourd'hui, on dit 25 collaborateurs à l'international pour BSF. En réalité, c'est 7 salariés à Paris. 3 dans les Yvelines sur la base de logistique. Alors après, il y a évidemment beaucoup de bonne volonté, des bénévoles, on a d'autres statuts, des VSI à l'international, des volontaires de solidarité internationale, on a du personnel local, etc. Mais effectivement, à Paris, pour gérer tout ça, on est que 7 et c'est pas facile.
Et alors, ça m'amène justement à vous demander comment fait-on pour pour finalement devenir bénévole à BSF?
Alors d'abord, on va dire que BSF recrute actuellement. On recrute un coordinateur de projet pour nos programmes en Haïti. Donc écrivez-nous parce qu'on n'a pas lancé l'appel en fait, parce qu'on avait quand même beaucoup de CV en stock. Si ça intéresse des gens dans la salle, donc c'est un volontariat de solidarité internationale, c'est des postes qui sont sur un an renouvelables et qui a donc la coordination de tous les projets, donc sous le chef de mission et avec un certain nombre de salariés locaux pour venir justement coordonner tout ça. Ensuite, pour le bénévolat, bah peut-être Anna, tu veux dire un mot là-dessus.
Alors pour le bénévolat, on organise tous les premiers lundis de chaque mois une réunion d'accueil des nouveaux bénévoles intéressés par l'association. Donc s'il y a des gens ici intéressés ou d'autres que vous connaissez, n'hésitez pas à faire passer le mot en nous envoyant un petit mail sur notre adresse info@bibliosansfrontieres. Et on vous donnera toutes les infos. L'idée, c'est que les bénévoles peuvent s'engager à la fois à l'entrepôt, donc dans les Yvelines. Ce n'est pas forcément facile pour les gens qui habitent à Paris, mais il y en a quand même qui le font assez régulièrement en venant une fois par semaine. Pour le tri de livres, tout ce qui va être justement informatisation du catalogue et puis la préparation des envois pour les bibliothèques destinataires. Et puis aussi sur les projets France dont je vous parlais tout à l'heure, notamment dans les centres d'hébergement, on monte beaucoup d'animations et de formations avec les publics des centres, justement pour favoriser l'appropriation de ces bibliothèques. Et là, il y a encore possibilité pour des bénévoles de nous aider là-dessus, sur des animations, des ateliers informatiques, des ateliers recherche d'emploi ou des choses comme ça. Puis après, il y a aussi des tâches plus administratives à notre siège qui nécessitent aussi des bénévoles. Donc voilà, les possibilités sont multiples, n'hésitez pas à nous faire signe.
Et est-ce que vous cherchez des compétences parfois vraiment spécifiques en matière de bibliothéconomie, à savoir gestion de SIGB, du système intégré de gestion de bibliothèque, ou alors compétences en catalogage ou des choses comme ça?
Oui, Anna parlait tout à l'heure des formations à l'étranger, donc ça c'est le premier pôle. Tu le sais, Mélanie, toi qui es partie pour BSF à plusieurs reprises. Non, deux fois. Donc, évidemment, on a besoin de compétences sur le terrain, sur des missions de formation ou d'expertise pour expertiser un réseau de bibliothèques ou une bibliothèque ou des choses comme ça. C'est des formations qui sont, de ce que disait Anna tout à l'heure, une semaine à un mois parfois. Des fois, c'est des missions un peu longues parce qu'il faut tourner sur plusieurs endroits ou plusieurs sites. Mais là-dessus, on a quand même effectivement beaucoup de gens de compétences qui nous sont proposées, mais on est toujours à la recherche aussi de nouvelles compétences parce que des fois, il y a des missions un petit peu compliquées qui demandent beaucoup d'expertise. On travaille là, alors je ne sais pas si c'est un projet qui se fait, j'en parle, peut-être que je déflore un peu le sujet, mais on travaille avec la Cinémathèque de Tanger, par exemple, sur un projet de gestion des ressources documentaires cinématographiques et notamment des films, création peut-être d'une plateforme de vidéo à la demande, etc. Donc vous imaginez un petit peu toutes les ressources et les compétences qui sont nécessaires à mobiliser autour d'un projet comme ça. On est loin de... Il y a aussi des formations toutes basiques, je dirais, de gestion basique d'une bibliothèque. Donc là, c'est plus des compétences didactiques à avoir. Ensuite, pour la France... On a besoin, on recherche des ressources, des gens motivés pour nous aider sur, soit sur de la recherche et développement, ce qu'on pourrait appeler pour un langage assez entrepreneurial, mais c'est-à-dire de la réflexion sur des enjeux contemporains, sur des problématiques qu'on se pose. Par exemple, on réfléchit. Là, je vous parlais du Cambodge tout à l'heure. C'est un projet où il y a ils ont des ressources un peu partout dans le pays, parce qu'il y a des bibliothèques dans les prisons, il y a des bibliobus qui viennent poser comme ça, des fois chez l'habitant, des points de livres où c'est l'habitant qui gère le prêt, etc. Et donc ils ont plein de livres comme ça dans tout le Cambodge, mais ils ne savent pas exactement où ils sont. Donc on est en train de réfléchir au développement d'un système de gestion du stock, étant donné qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas Internet, par téléphone, où le téléphone deviendrait un scanner des codes-barres, comme une douchette code-barres en bibliothèque, et ferait remonter l'info à un serveur centralisé, si vous voulez. Tout ça, ça demande des compétences. Alors, de plus en plus, on a besoin de compétences en nouvelles technologies informatiques, etc., parce que c'est souvent par ce biais-là qu'on arrive à résoudre un certain nombre de problématiques. Mais voilà, beaucoup de compétences différentes qui peuvent être intéressantes pour nous. Je crois qu'il y a une question.
Bonjour. Je suis heureuse de vous entendre parler du Cambodge parce que justement, je voulais vous parler, je suis venue exprès pour vous parler du Vietnam. Puisque vous savez que le Vietnam et la France, au niveau de la linguistique, ce sont les deux doigts de la main, puisque la phonétisation de la langue vietnamienne a été faite donc par les jésuites et, disons, les missionnaires Alexandre de Rhodes, et puis bon, ça remonte au XVIe et XVIIe siècle. Donc je pense que Bibliothèque sans frontières, disons que je voudrais participer à Bibliothèque sans frontières pour développer ce secteur du lettré chinois vietnamien qui est le fondement même de la société, c'est-à-dire la langue, le savoir qu'on transmet aux enfants, enfin puisque chez nous au Vietnam, le maître est aussi important que les parents. C'est-à-dire qu'à égalité, lorsque vous avez un maître, vous êtes loyal envers ce maître jusqu'à la mort. Et donc je suis heureuse de vous voir, disons, de vous entendre parler du Cambodge, et j'aimerais bien que le Vietnam puisse y participer aussi.
Bah écoutez, pourquoi pas. Vous voyez, je disais tout à l'heure qu'une bibliothèque, c'est toujours une promesse. C'est toujours comme ça que démarre un projet de Bibliothèque sans frontières, par une rencontre. Une bibliothèque, c'est aussi des rencontres. Rencontrons-nous, discutons-en. Et évidemment, les projets bibliothèques, ça naît d'envie comme ça, qui peuvent germer et créer comme ça et s'aimer et créer des petits. Moi, j'aime beaucoup cette idée. C'est vraiment la logique d'action de BSF, hein, de dire amenez-nous des projets, venez avec des projets et on essaiera de les co-construire. Donc, avec plaisir.
Oui, et permettez-moi de rajouter, c'est que, bon, je fais partie d'une promotion, disons, ça fait 50 ans, je suis arrivée à l'âge de 17 ans en France, pour étudier en France, donc, et voilà, ça me fait 50 ans, et maintenant, en tant que senior, je voudrais participer à retransmettre tout ce que j'ai appris et fait en France depuis 50 ans.
Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires, partage d'expérience. Bon, alors si ce n'est pas le cas, en tout cas, merci beaucoup à Jérémy Lachal et Anna Soravito pour cette intervention que vous pouvez retrouver sur le site donc d'ici quelques jours. Et donc j'en profite pour vous inviter d'ailleurs sur le site à retrouver les références qui ont pu être évoquées aujourd'hui sur le Bibliothèque sans frontières, Savoir solidaire, le rapport annuel aussi de Bibliothèque sans frontières. Et j'en profite aussi pour vous dire que la prochaine rencontre concerne l'Asie centrale. C'est une conférence qui aura lieu le 19 juin. À 18h30, et elle s'intitule La carte au territoire, les nouvelles frontières de l'Asie centrale, avec Julien Torres du CNRS et Sébastien Collin de l'INALCO. Donc voilà, une conférence qui aura lieu ici même. Bonne soirée.
Peut-être, étant donné qu'on fait un peu de promotion, j'en profite pour vous dire que dans le cadre des 50 bibliothèques sans frontières, il y a jeudi une conférence à l'Institut du monde arabe. C'est la deuxième conférence d'un cycle de rencontres littéraires que nous organisons. La première a eu lieu au Monde et c'était sur l'écrivain face aux catastrophes. Celle-ci porte sur l'écrivain dans les révolutions. Lire et écrire, c'est déjà être libre, c'est le titre de la conférence. Et évidemment, elle fera écho au programme que nous avons en Tunisie aujourd'hui. Et donc on a des personnalités comme Lucien Polastron et des personnalités tunisiennes qui viendront échanger sur ce thème. Donc c'est jeudi à l'Institut Monde Arabe à 18h30, et vous avez des petits marque-pages en fait en haut de la salle qui vous donnent tout le programme. Il y en a plus, c'est ça que tu me dis? Bon. Mais vous pouvez trouver ça sur notre site internet.
Victime de votre succès. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.